pourquoi les travailleurs indochinois revendiquèrent-ils le statut d'ouvrier-soldat pendant la Seconde Guerre mondiale? Entre 1914 et 1918, le gouvernement français recruta plus de 90 000 travailleurs et tirailleurs indochinois réquisitionnés pour contribuer à l'effort de guerre. En 1939, renouant avec ce précédent, le service de la main-d'œuvre indigène, nord-africaine et coloniale, plus connu sous le sigle MOI, M-O-I, décida à nouveau de déplacer en métropole 20 000 travailleurs indochinois, auxquels s'ajoutèrent 7 000 soldats qui firent partie des 41 000 tirailleurs coloniaux engagés dans la guerre. Un quart de ces travailleurs furent rapatriés après la débâcle de 1940, mais les autres restèrent bloqués en métropole, certains d'entre eux jusqu'en 1952, employés le plus souvent dans les fermes et les forêts comme ouvriers non spécialisés. Un millier d'entre eux s'installèrent définitivement en métropole. Dans la thèse qu'elle leur a consacrée, Liemke Lugerne a décrit la souffrance extrême, matérielle et morale, de tous ces individus brutalement déracinés de leurs terres, confinés dans des fermes ou des usines, soumis aux préjugés racistes. Grâce à l'ampleur d'une recherche menée parallèlement en France et au Vietnam, elle a pu montrer que l'expression « travailleur indochinois » couramment employée jusqu'aujourd'hui, était une construction de l'administration coloniale qui avait servi à masquer la diversité des situations. Dans les entretiens qu'elle a réalisés avec ses anciens sujets indochinois, elle a constaté qu'ils se définissaient eux-mêmes comme des ouvriers soldats, lin to, expression qui n'est jamais présente dans le vocabulaire des fonctionnaires. Son ouvrage montre aussi le traumatisme durable qui a résulté de cet enrôlement. Le contrôle de l'administration coloniale sur ces travailleurs a contribué à modifier leur identité personnelle en laissant des traces indélébiles dans leur mémoire collective, puisque la plupart d'entre eux se souviennent aujourd'hui encore du numéro matricule qu'on leur a attribué lorsqu'ils ont été réquisitionnés pour aller en métropole. En regroupant dans une même catégorie ceux qu'elle appelait les travailleurs indochinois, l'administration coloniale a également masqué les différences sociales entre la majorité d'entre eux issus du monde rural vietnamien et la petite partie de ceux qui avaient eu accès à l'enseignement franco-indigène au Vietnam. Cette élite a cherché désespérément à se conformer aux normes de la bourgeoisie occidentale. Cette soif de reconnaissance s'est exprimée non seulement dans les manières de s'habiller, mais elle s'est insinuée jusque dans les attitudes corporelles. Liemke Lugerne souligne que ce sont les membres de cette élite maîtrisant la langue française qui ont joué le rôle essentiel dans la construction de l'image collective de leur communauté. C'est parmi eux que l'on trouve la plus forte proportion des Indochinois qui sont restés en France. Et ils sont aujourd'hui les plus actifs dans les revendications mémorielles, notamment dans les demandes de réparation adressées à l'État français. Les ouvriers et les paysans qui ont été rapatriés au Vietnam n'ont jamais pu, quant à eux, accéder à cette parole publique.